En février dernier, l'Ouganda était le premier pays africain à reconnaître par la loi les droits de la nature, ce qui signifie que toute personne peut désormais dans ce pays intenter une action devant un tribunal pour toute atteinte aux droits de la nature. Cette décision s'inscrit dans un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur, puisqu'avant l'Ouganda, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, la Colombie ou certaines villes des États-Unis ont reconnu des écosystèmes en tant que personnes juridiques afin de pouvoir donc les représenter et les défendre face à la justice. La juriste Valérie Cabanès est spécialisée dans les droits de l'homme. Elle œuvre pour une reconnaissance universelle des droits de la nature et du crime d'écocide. Elle est l'invitée de la Terre au Carré dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert dans quelques minutes.
Oui, je vais vous parler de Donald Trump et du climat aujourd'hui.
Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
C'est vous qui signez les reportages de la semaine et vous avez rencontré pour la Terre au Carré les mal-aimés de l'écologie.
Oui, ceux qui sont cloués au pilori par les défenseurs de l'environnement, un chauffeur routier, un éleveur de poules, un pêcheur. Et aujourd'hui, on part à la rencontre d'une agricultrice qui utilise les pesticides.
Et qui les aime, on le verra. Vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Johan qui va nous parler de sa plantation de coton dans le Gers. Et puis enfin, notre invité découverte est le comédien et réalisateur Bastien Ouguetto pour la série L'Effondrement, diffusée à partir de ce soir sur Canal+. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré, réalisée par Céline Hila, avec à la technique Tristan Gratalon et Serge Viguier.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Bonjour Valérie Cabanès.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes donc juriste en droit international spécialisée dans les droits de l'homme, porte-parole du mouvement citoyen End Ecocide on Earth et vous serez l'une des quatre invitées de la conférence Demain Notre Planète qui va se dérouler donc jeudi 21 novembre. C'est dans 10 jours maintenant au studio 104 de la Maison de la Radio avec une retransmission en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France et vous serez aux côtés d'Hubert Reeves, de Cynthia Fleury et d'Aurélien Barraud. Il y a 2 ans, Valérie Cabanès, vous avez publié cet ouvrage Homo Naturae, en harmonie avec le vivant chez Buchet-Chastel. Être en harmonie avec le vivant, ça peut sonner presque un peu ésotérique, mais vous l'entendez comment, vous, en tant que juriste ?
Alors, en tant que juriste, c'est en fait inscrire dans le droit nos liens d'interdépendance avec les autres espèces, avec les autres systèmes vivants. Je crois qu'on l'a oublié. Le droit occidental, en fait, s'est construit autour du principe de la dignité humaine, a été supplanté par le droit des multinationales, le droit commercial. Et face à la crise écologique, face à la crise climatique, je crois qu'il est vraiment temps de considérer qu'on est un des éléments de la nature, qu'on doit donc réapprendre à partager le monde, à habiter la terre avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres, et l'inscrire dans le droit. Mmh. Pour moi, c'est essentiel. Il faudrait finalement renverser l'échelle des normes, c'est-à-dire considérer que la nature nous est essentielle et que chaque élément de la nature a son rôle à jouer dans la communauté de vie et donc donner son droit à exister, à se régénérer, à évoluer à chaque élément de la nature. Et c'est, il semble, aujourd'hui la seule façon de pouvoir garantir les droits fondamentaux de chaque humain.
Ouais.
On n'a plus aujourd'hui la possibilité de garantir aux générations futures le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à l'habitat. Ces droits-là sont menacés par la crise climatique, par la crise écologique. Donc, reconnaître les droits de la nature par la loi, à ce moment-là, on garantit les droits fondamentaux humains et on devrait assujettir le droit commercial et cadrer l'activité industrielle dans le respect des limites que la planète nous offre.
Donc c'est évidemment conserver les droits de l'homme, hein, tout en incluant les droits de la nature. Alors évidemment, vous êtes juriste, mais il vous semble qu'aujourd'hui, finalement, le levier juridique et le droit sont un facteur absolument indispensable aujourd'hui pour arriver à avancer sur ce terrain de l'environnement et de l'écologie.
Je crois surtout que le droit est notre dernier rempart avant la violence et que le nombre de réfugiés climatiques, en tout cas de migrants climatiques, puisque le statut de réfugié climatique n'existe pas encore, le nombre de victimes d'un plus 7 degrés à la fin du siècle nous impose, nous oblige aujourd'hui à essayer de trouver des règles du vivre ensemble. Et quand je dis vivre ensemble, comme je le disais, c'est avec les autres éléments de la nature. Dès maintenant, à cadrer cette activité industrielle de façon coercitive s'il le faut, on y viendra. Parce que si nous ne le faisons pas, je pense que ça va vraiment être le chaos et que la violence va dominer.
C'est vraiment les industriels, justement, les premiers responsables dans tout ça ?
Alors, c'est pas qu'ils sont responsable seul, parce que je rappelle quand même qu'en 2015, le Fonds monétaire international nous a expliqué, par exemple, pour les énergies fossiles, que 5300 milliards de dollars avaient été encore attribués en subvention par les États et les banques aux énergies fossiles. Donc c'est une complicité qu'il y a dans le système finalement néolibéral, capitaliste, et un système qui s'appuie sur l'exploitation à outrance des ressources de la Terre.
Auxquelles nous contribuons d'ailleurs nous-mêmes,
nous contribuons en tant que consommateurs, individuellement, voilà. Mais c'est aussi à nous, en tant que citoyens, en dehors de tout ce que nous pouvons faire pour respecter effectivement l'écologie terrestre, c'est à nous de revendiquer auprès des législateurs, auprès des politiques, qu'ils cadrent cette activité industrielle, parce que vous avez vu le rapport de l'environnement qui vient d'être publié par le ministère de la Transition écologique. Ils admettent que la France, déjà toute seule, franchit 6 des 9 limites planétaires reconnues internationalement par les Nations Unies, par la Commission européenne. Et franchir ces limites planétaires, il faut expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire en termes de changement climatique, en termes d'érosion de la biodiversité, d'acidification de l'océan, de déboisement, de quantité de phosphore et d'azote que l'on met dans les sols, de quantité de pesticides ou de rejets de toutes sortes écotoxiques. Nous basculons, en les franchissant, dans un état planétaire qui devient tout simplement inhospitalier. La Terre va nous chasser. Donc, pour moi, ces limites planétaires, qui sont pour l'instant qu'une théorie scientifique, devraient devenir des normes juridiques et cadrer cette activité industrielle.
Ça veut dire quoi concrètement, Valérie Cabanès, donner accorder en tout cas une personnalité juridique à une entité naturelle ?
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui tord le cou à nos habitudes. Hein. Nous sommes, nous les humains, sujets de droit. Tout ce qui émane de nous peut être sujet de droit. Par exemple, les entités morales que sont les entreprises ou une association sont des sujets de droit. Ça veut dire concrètement qu'ils peuvent aller en justice, défendre leurs droits. En revanche, tout ce qui est vivant sur Terre et qui n'est pas humain...
Donc un arbre, une rivière, l'air que nous respirons...
Exactement, sont considérés comme des objets, comme des meubles, comme des choses, sans droit, par contre, qui peuvent avoir des maîtres. Et donc nous sommes vraiment encore complètement dans la pensée de Descartes, maître et possesseur de la nature, et au centre de l'univers, je dirais même sur un piédestal. Donc il s'agit de reconnaître à chaque élément de la nature son droit à exister, son droit à évoluer, à se régénérer, et puis reconnaître aussi des droits qui sont spécifiques. Les droits de poisson ne sont pas des droits d'arbre, ne sont pas des droits de fleuve, mais au final, l'objectif, c'est de pouvoir prévenir véritablement la dégradation des écosystèmes et l'érosion de la biodiversité, en donnant la possibilité à des éléments de la nature de défendre ce droit à exister en justice par voie de représentation. En fait, c'est ce que l'on fait avec un enfant. Il n'a pas le droit de défendre, finalement, de se défendre face à un juge. Il a besoin d'un tuteur légal, il a besoin, les Indiens les ont appelés des parents, les Maoris s'appellent des gardiens, on en parlera. Mais voilà, il s'agit simplement d'aller en justice, défendre le droit de ces écosystèmes à exister face à des projets, par exemple, industriels qui les menacent.
Alors, les Maoris, par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a eu vraiment des avancées, hein, vous le dites d'ailleurs dans le livre, au moment où vous l'écriviez, d'ailleurs, il y a 2 ans, l'année 2017 a été vraiment un moment tout à fait, historiquement, en tout cas très très important pour les droits de la nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Citons 1 ou 2 exemples très concrets pour que les auditeurs comprennent bien ce que peut représenter justement le fait d'être classé en personnalité juridique pour un élément de la nature. Alors, la Nouvelle-Zélande, par exemple, mars 2017, avril 2017.
Oui, alors la Nouvelle-Zélande, effectivement, c'est une négociation qui était en cours depuis presque 150 ans entre les Maoris et la couronne, la Nouvelle-Zélande. Chaque tribu Maori vit sur un territoire ancestral et chacune a essayé de négocier le gardiennage de ce territoire ancestral et idéalement la souveraineté sur ce territoire ancestral, ce que la couronne ne souhaitait pas. Donc elle a fini par octroyer effectivement la personnalité juridique au fleuve Whanganui, à une montagne, un volcan, le mont Taranaki, à un parc, le Te Uruwera, en expliquant donc qu'il les reconnaîtrait comme entités vivantes, qu'il leur donnerait la personnalité juridique, qu'il donnerait même un fonds pour pouvoir restaurer ces écosystèmes et que le gardiennage serait assuré par les tribus maoris qui vivent sur ces lieux. Ça, c'est une approche donc qui passe par des, je dirais, par des accords, par des règlements et qui aboutissent à des lois. Je peux citer un autre exemple qui, lui, à mon avis, est exemplaire, c'est celui de l'Équateur, qui a été le premier au monde à reconnaître les droits de la nature dans sa constitution. Et c'était en 2008. Et aujourd'hui, 32 procès ont été menés au nom d'intérêts d'éléments de la nature, 25 ont été gagnés, une mangrove, par exemple, à gagner face à une exploitation industrielle de crevettes pour se protéger des antibiotiques qui allaient être mis dans la nature. Une espèce requin a gagné face à un bateau chinois. Et ça, c'est intéressant parce que le juge a même considéré que c'était une activité criminelle. On avait retrouvé 6000 requins à bord de ce bateau chinois qui avait été tué pour récupérer les ailerons. Et ils ont mis le capitaine et son équipage en prison. Ou une route qui s'est défendue face à une rivière, et c'est la rivière qui a gagné.
Alors les exemples se multiplient, on pourrait en citer plusieurs, parce que vraiment partout sur la planète, et même aux États-Unis, on va en parler dans un instant avec Camille, hein, il y a des choses qui sont dans certaines villes, et puis vous, vous luttez également pour que le terme d'écocide, ce concept d'écocide, soit accordé également dans le droit international. On en reparlera avec vous dans un instant, puisque vous êtes l'invité du dossier de la Terre au carré, Valérie Cabanès, et les auditeurs peuvent vous interpeller au standard en nous appelant dès maintenant pour toutes les questions. À tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on passe au vert ensemble et aujourd'hui, exercice audacieux, vous essayez de vous mettre dans la tête de Donald Trump.
Oui, vous savez que lundi dernier, les États-Unis ont officialisé leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. Un courrier envoyé à l'ONU qui valide ce que le président américain avait annoncé au moment de son élection. Il l'a redit en début de semaine dans le Kentucky. J'annonce le retrait américain de l'horrible, coûteux et unilatéral accord de Paris. Et il va ironiser. Demandez-leur comment ils s'en sortent à Paris. Pas très bien. Et il adore le sarcasme, Donald Trump. Écoutez-le dans un autre meeting en mars. Mathieu, je vous laisse traduire.
No planes,
pas d'avion.
No energy,
pas d'énergie.
When the wind stops blowing,
quand il n'y a plus de vent, plus de courant, chérie. Chérie, est-ce que le vent va souffler aujourd'hui ? Je voudrais regarder la télé.
Mais qu'est-ce qu'on se marre ? Et puis il y a aussi ces centaines de tweets sur le sujet. En janvier dernier, par exemple, où une partie du pays est sous la neige. Ce serait pas mal qu'on ait un peu de ce bon vieux réchauffement climatique là, maintenant. Alors la première question, c'est croit-il vraiment à ce qu'il dit ? Donald Trump doute-t-il du réchauffement climatique ? Voici trois déclarations qui datent de sa campagne. Il n'était donc pas encore président. C'était en 2015. La première.
All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay?
Hoax pour canular en français, un truc aussi pour faire de l'argent, dit-il. Deuxième déclaration, toujours pendant sa campagne en 2015, il est au téléphone sur CNN.
I am not a believer in climate change.
Je ne crois pas au changement climatique. La suite.
It's weather.
C'est juste la météo. Je ne regarde plus les infos le soir. À chaque fois que j'allume la télé, il parle d'une tempête, d'une tornade, de ci, de ça. On ne peut plus regarder les infos. Il n'y a que la météo. Et enfin, troisième extrait, 2015. Barack Obama est à Paris pour la COP21. Un journaliste demande à Donald Trump ce qu'il pense du sommet. Mathieu, à vous pour la réponse.
C'est ridicule. Il y a de plus gros problèmes. Que le président soit là-bas si longtemps pour dire que le réchauffement climatique est le plus grand problème de notre pays, c'est fou.
Et il ajoute...
C'est une grosse arnaque pour que certains se fassent de l'argent.
Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'était avant qu'il soit président. Depuis, il a appris la différence, par exemple, entre le climat et la météo, et il s'est calmé. Eh bien, pas tant que ça. Octobre 2018, donc il y a un an, Donald Trump est invité d'une des émissions les plus connues aux États-Unis, 60 minutes sur CBS. La journaliste aimerait qu'il voie les blocs de glace fondre au Groenland à l'origine de la montée des eaux. Vous ne savez pas si ce serait arrivé avec ou sans les hommes. Vous ne savez pas. Je ne nie pas le changement climatique, mais les choses pourraient revenir en arrière.
Mais Camille, que dit-il, donc, le président américain, des rapports, des alertes des scientifiques?
Eh ben, il dit ça, novembre 2018. Je peux aussi vous donner des rapports contradictoires. Il y a des scientifiques qui contestent. Il y a différents points de vue. Donald Trump affirme même que les 197 pays signataires de l'accord de Paris sont tous, je cite, à la traîne derrière les États-Unis sur les émissions de gaz à effet de serre. Août dernier, au G7 à Biarritz, Mathieu.
Je suis un écologiste, beaucoup ne le comprennent pas. J'ai fait plus que n'importe quel autre président ou vice-président ou qui que ce soit. J'en sais plus sur l'environnement que la plupart des gens.
Voilà, Donald Trump en fait ne veut pas se plier à des accords qui vont contraindre l'économie de son pays et son trésor, le charbon, qu'il a dit être propre au passage, la prospérité avant tout. Je ne vais pas perdre cette prospérité pour des utopies et des éoliennes. Au revoir donc l'accord de Paris sur le climat. Emmanuel Macron a lancé un petit message mercredi de Chine à Donald Trump.
Je déplore les choix qui sont faits par quelques autres, mais je veux les voir comme des choix marginaux. Parce que quand la Chine, l'Union européenne, la Russie, qui a ratifié il y a quelques semaines les accords de Paris, s'engagent avec fermeté, le choix isolé de tel ou tel autre ne suffit pas à changer le cours du monde.
Et Donald Trump n'a pas encore réagi.
Camille passe au vert, c'est à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
Valérie Cabanès, est-ce que Donald Trump et ses décisions sont un vrai frein à la lutte contre le réchauffement climatique ou c'est du blabla et derrière on arrive quand même à faire des choses ?
Non, c'est symboliquement, et pas que symboliquement, extrêmement fort qu'un président d'une des plus grandes puissances du monde, voire même la première avec la Chine, décide de se retirer de l'accord de Paris. Dans le sens où cela montre en fait finalement tout l'écueil du droit international aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire que nous signons des traités au sein de l'ONU qui en fait ne sont pas contraignants et qui permettent donc de brandir le principe de la souveraineté nationale pour défendre des intérêts qui sont particuliers, les intérêts des États-Unis pour le coup, sans considération de l'intérêt général. Et là aussi, une fois de plus, face à cette crise climatique, il me semble extrêmement important de remettre en question ce principe de souveraineté nationale parce que les décisions des États-Unis, les émissions de gaz des États-Unis seront dans l'atmosphère partout et que donc la décision d'un Trump va avoir une conséquence gravissime pour des centaines de millions de personnes, voire même des milliards de personnes d'ici la fin du siècle.
Et à ce titre, est-ce qu'on pourrait porter plainte contre un président pour crime contre la nature, par exemple ? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça du point de vue du droit ?
Alors justement, pour l'instant, on ne peut pas. Et c'est bien pour ça que je mène ce plaidoyer pour la reconnaissance du crime d'écocide. L'écocide, c'est le fait de détruire notre maison commune. Trump y participe de façon, je dirais, délibérée, intentionnelle. Et à ce sujet, pour moi, commet un crime contre la paix et la sécurité humaine. C'est pour ça que je demande à ce que le crime d'écocide soit reconnu par la Cour pénale internationale, permettant de juger des personnes qui portent atteinte de façon grave aux écosystèmes les plus vitaux du monde, dont l'atmosphère, et puisse être, en tant que dirigeant politique ou économique, poursuivi devant la Cour pénale internationale pour des décisions qui auront un impact sur l'humanité tout entière et le vivant tout entier.
Vous arrivez encore à voyager aux États-Unis, Valérie Cabanès, aujourd'hui ?
J'ai quelques difficultés, effectivement. J'ai traité Trump de criminel au moment où il avait annoncé qu'il souhaitait sortir de l'accord de Paris. Et je suis de façon systématique aujourd'hui contrôlée de la tête aux pieds.
Quand vous arrivez là-bas ?
Non, au moment où j'essaie de rentrer dans l'avion.
Déjà depuis la France.
Oui, et je me souviens qu'à la même époque, Nicolas Hulot m'avait soutenu dans l'IB et avait eu des difficultés énormes en tant qu'ambassadeur pour la planète. Pour avoir un visa pour aller aux États-Unis. Donc on est surveillé, c'est évident.
Le dur combat pour la nature, justement. Valérie Cabanès, vous êtes notre invitée. On se retrouve dans un instant avec les auditeurs de la Terre au Carré.
Fini la 8-6, fini la fumette. C'est fini les bêtises, les clubs de striptease. Les femelles à lunettes. La migraine au réveil, j'ai la coupe d'un Bee Gees. Une haleine de fenêtre. Chez moi, ça sent la vieille, ça fait au moins 10 piges. Que j'ouvre plus les fenêtres. Je prends la vie comme un jeu. Mon ami.
Cherche celle qui va mettre le sucre. J'aime pas ma vie, j'écris quand même dessus. je fais ça encore salement. J'ai le cœur sur la main, j'ai le cuir sur les manches. Les mêmes qui empochent, y'a trop d'embûches. Voir ton ennemi en Porsche quand t'es dans le bus, c'est comme un parachute qui s'accroche mal. La femme de tes rêves avec l'homme de tes cauchemars. Chaussures turquoise, je porte mes costumes qu'une fois. Devine, je le jure sur quoi.
Sur ma vie, comme un jeu, mon ami. C'est comme un jeu. Sur ma vie, comme un jeu, mon ami.
Pour les murs, je vise le best. Ils diront tous que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Pour les murs, je vise le best. Ils diront tous que je suis leur pote si je perce. N'insiste pas avec moi, tu risques de perdre. Je ne ferai pas si j'ai pas envie de le faire.
Mais ça danse dans le studio de la Terre au Carré avec Némir et Alpha One, c'était sur ma vie.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Valérie Cabanès, Homo Natura en harmonie avec le vivant. Ce livre est sorti il y a 2 ans chez Bûcher Chastel. Il est presque sorti un petit peu trop tôt d'ailleurs.
C'est clair, hein, il est sorti un petit peu trop tôt. Voilà. Je crois que là, il nous parle à tous aujourd'hui.
C'est vrai, absolument. Il prend vraiment une dimension tout à fait particulière avec la crise environnementale à laquelle beaucoup, beaucoup d'entre nous s'intéressent. Et Yann peut-être également, je n'en doute pas d'ailleurs. Bonjour Yann.
Oui, bonjour.
Bienvenue
oui,
à vous.
Alors je m'intéresse et je suis tout à fait favorable à la thèse soutenue par votre invité. Je me fais juste l'avocat du diable pour voir ce que vous répondez aux adversaires et puis peut-être dans un but didactique pour les non-juristes. Donc je vous pose la question suivante, mais comment vous prouvez votre légitimité à agir? Qu'est-ce qui vous prouve qu'un arbre menacé par l'installation d'un centre commercial ou je ne sais quelle rivière menacée de pollution veut agir en justice? D'où tirez-vous votre légitimité?
Valérie Cabanès, bonne question de Yann.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup de peuples autochtones ont mis du temps à vouloir reconnaître les droits de la nature, parce qu'ils disaient que pour eux, c'était juste une évidence. Et en même temps, ils ont fini par comprendre, d'une part, qu'en tant qu'éléments de la nature, ils pouvaient défendre la nature à exister, parce qu'ils défendaient leur droit à exister aussi à travers cela. Et puis parce que ils sont face à des menaces industrielles qui les obligent finalement à codifier, c'est-à-dire à écrire le droit qui leur était coutumier, de manière à pouvoir se défendre en justice et défendre le territoire sur lequel ils vivent en justice. Ils considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et pas que le territoire leur appartient, et c'est un autre rapport au monde qui s'exprime de cette manière. Alors pour répondre à votre question de façon plus précise, il s'agit pas dans la reconnaissance des droits de la nature de donner des droits à un arbre ou à un chien. Il s'agit de donner des droits à des espèces ou à des systèmes vivants qui sont tous nécessaires pour le maintien de la vie sur Terre. Donc ça peut être un fleuve, ça peut être une forêt, ça peut être l'air tout simplement, ça peut être l'eau. Ou une espèce migratrice, ou une espèce en général dont on a besoin pour que l'écosystème se maintienne en vie. Voilà. Donc prendre la défense de cet écosystème, c'est finalement prendre la défense du lieu où l'on vit et donc des conditions de vie dans lesquelles on se trouve. C'est faire perdurer la vie pour pouvoir faire perdurer celle de tous les êtres vivants, humains et non humains.
Mais Yann a raison, c'est difficile de se mettre dans la tête d'une rivière, de l'air ou d'un arbre.
Alors ça se fait de façon très scientifique. En règle générale, qui vient à la barre, ce sont des biologistes, ce sont des écologues, et qui essayent de démontrer que un projet de fracturation hydraulique, un projet de route, un projet de centre commercial, comme vous le dites, va avoir des effets à long terme qui seront bien plus néfastes que les intérêts économiques sur le court terme. C'est en fait adopter une vision du long terme, c'est-à-dire penser aux générations futures, penser effectivement à la manière dont on vivra demain. Et ça, c'est quelque chose que le droit ne prend pas en compte. Les générations futures ne sont pas des sujets de droit, et c'est un vrai problème face à cette crise qui nous guette.
Karl est en ligne également avec nous au standard de la Terre au Carré. Bonjour.
Oui, bonjour à Dieu, bonjour à tout le monde. Donc voilà ce que je voulais stipuler par rapport à votre invitée. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec elle, et je dirais même qu'il y a des personnes qui sont plus investies que ça, comme moi, depuis 17 ans. Mais le point que je voulais relever, c'était par rapport à la création d'une autoroute donc dans le Var entre le Canet des Morts et Cuers. Cette jonction, vu les 6 bandes de goudron noir, génère du printemps à l'automne une chaleur importante que tous les orages ou toutes les pluies ne viennent plus dans ce versant du Massif des Morts. Et donc le Massif des Morts à cet endroit-là est en train de se mourir depuis 24 ans bientôt.
Et donc votre témoignage nécessite une question, Valérie Cabanez, vous...
Ben, disons que savoir par rapport à l'écocide qu'est stipulé les différents écocides, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen légalement par des associations ou autres que Vinci, puisque c'est Vinci qui sont propriétaires de cette autoroute, fasse du goudron blanc à la place du goudron noir, même si c'est 6 fois plus cher, on est en train de perdre quand même plus de 50 ou 60 000 hectares en France, bêtement à cause du déplacement de tout à chacun.
Merci Karl, en tout cas, oui. Est-ce que ce concept d'écocide pourrait entrer, par exemple, dans ce type de cas?
En tout cas, dans le droit existant français, qui est quand même un droit très en avance par rapport à d'autres pays du monde, on pourrait utiliser le principe de préjudice écologique pur, qui vient d'être utilisé, par exemple, pour les calanques, il y a 2 jours, par la justice, et qui a reconnu donc une atteinte à la valeur intrinsèque de l'écosystème des calanques, sans avoir besoin de faire de lien avec des victimes humaines. Donc ça, c'est quelque chose de complètement innovant dans le droit, mais vous comprenez bien que le préjudice écologique pur ne peut être utilisé que quand la catastrophe est déjà arrivée. Mmh. C'est d'où l'intérêt, effectivement, de reconnaître les droits de la nature qui ont une visée préventive. Parce que ça permet, effectivement, de saisir la justice en amont d'un projet et de demander à un juge de décider si ce projet vaut la peine d'être mené au regard des conséquences écologiques, par exemple, ou des conséquences sur les générations futures, ou alors s'il faut le stopper avant même qu'il ait eu lieu. Donc c'est pour ça que je continue à plaider pour que la reconnaissance des droits de la nature soit aussi un sujet politique en France, de même que le crime d'écocide. Fort heureusement, il commence à y avoir de plus en plus de politiques qui s'y intéressent et qui demandent des propositions de loi. Voilà, mais...
Écouter Benoît Hamon, d'ailleurs, à ce sujet, puisque lui aussi... D'ailleurs, même le président Macron a utilisé le terme d'écocide assez récemment. Oui. Est-ce que pour autant, il va le défendre?
Je vais vous raconter.
Bon, on va d'abord écouter Benoît Hamon.
La reconnaissance du crime d'écocide. Aujourd'hui, il y a des personnes morales, États ou entreprises qui produisent des crimes contre l'intérêt général et les générations futures.
Voilà, Valérie Cabanez, c'était en mai dernier, donc Benoît Hamon, et il n'est pas le seul à employer ce terme d'écocide.
Oui, c'est vrai que là, dans la dernière campagne pour les européennes, on a entendu au moins 5 partis politiques utiliser le terme d'écocide ou en faire même leur cheval de bataille comme Benoît Hamon. En mai, il y a eu aussi une proposition de loi qui avait été proposée par le groupe socialiste au Sénat. Elle était mal ficelée, mais elle a eu le mérite de lancer le débat. Il y en a une seconde qui vient d'être mise dans les tuyaux au Parlement, et une troisième qui est en préparation, sur laquelle moi-même je travaille, de manière à faire en sorte qu'il y ait une action transpartisane, c'est-à-dire de plusieurs partis politiques en même temps, et dans les deux chambres, pour pouvoir porter effectivement cette reconnaissance.
Sauf que employer ce mot-là, comme l'a fait aussi le président Macron, ça n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que simplement employer ce terme.
Voilà. Alors, Macron,
ça serait dangereux que ça devienne une espèce de gimmick.
Oui, absolument. Oui, alors c'est drôle, parce que quand j'ai commencé à travailler sur le crime d'écocide en 2013, le mot n'existait même pas dans la langue française. Aujourd'hui, tout le monde l'utilisait à toutes les sauces. Macron l'a utilisé très clairement en août par rapport aux feux de forêt en Amazonie. Mmh. Et ça m'a permis de rebondir parce que Brune Poirson avait eu le même propos lors des débats au Sénat sur le crime d'écocide. Elle expliquait que le gouvernement était plutôt favorable à l'idée d'une reconnaissance du crime d'écocide à l'échelle internationale.
Ouais.
Moins à l'échelle nationale, parce qu'ils n'avaient pas envie d'être les gendarmes du
Bien
monde,
sûr.
Soi-disant.
Oui.
Bon, cela étant dit, je viens d'inviter effectivement l'ambassadeur pour l'environnement du ministère des Affaires étrangères a animé avec moi et le Vanuatu un side event pendant l'Assemblée générale de la Cour pénale internationale début décembre qui va traiter du crime d'écocide et peut-être que le gouvernement va ainsi pouvoir montrer son véritable intérêt sur le sujet.
Très bien. Camille, un dernier message.
Emmanuel Parmel qui dit: Mathieu, s'il vous plaît, oubliez les droits de l'homme et dites les droits humains. Valérie Cabanez, est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel?
Alors je comprends très bien pourquoi il le dit. Simplement, quand on affiche un un diplôme, on est obligé de dire les droits de l'homme, parce qu'on étudie les droits de l'homme avec un grand H, comme la déclaration des droits de l'homme. Mais de manière générale, il vaut mieux utiliser aujourd'hui les droits humains, si on veut s'affranchir.
Il faudra dire à votre éditeur d'ajouter le H majuscule, alors majuscule. Il l'a oublié justement. Absolument. Sur votre ouvrage. Homo Natura, en harmonie avec le vivant, c'est chez Bûcher, Chastel et Valérie Cabanès. Donc vous serez le 21 novembre prochain avec nous sur la scène du 104 à la Maison de la Radio, et puis également dans 150 salles de cinéma en France, aux côtés d'Hubert Rive, de Cynthia Fleury et d'Aurélien Barreau, pour notre conférence « Demain, notre planète ». Et on peut réserver justement pour les salles de cinéma en ce moment en allant sur la page de la Terre au Carré. Rendez-vous au 21 novembre. Merci beaucoup d'être venu.
France Inter. La Terre au Carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, nous irons planter du coton dans le Gers.
Ça alors.
Première plantation du pays avec Johan, un auditeur qui va nous en parler dans vos solutions pour la planète. Et puis enfin, notre invité découverte est le comédien, auteur et réalisateur Bastien Huguetto pour la série L'Effondrement, diffusée à partir de ce soir sur Canal+. Mais pour le moment, c'est l'heure du reportage de la semaine et c'est vous qui le signez, Antoine Lee, avec une série de portraits sur les mal-aimés de l'écologie. On démarre aujourd'hui avec une jeune agricultrice qui travaille en conventionnel. Elle est victime de ce qu'on appelle l'agribashing.
Oui, je me suis rendu sur l'exploitation de Cécile Jarose, près de Rambouillet dans les Yvelines. Alors depuis 3 ans, elle travaille main dans la main avec son père pour préparer la relève. Alors cette agricultrice de 27 ans cultive sur 150 hectares du blé, du colza ou encore de l'orge. Et avant de travailler avec son père, elle a suivi une formation d'ingénieur agronome à Lille. Elle et son père utilisent des pesticides, ce qui fait qu'ils sont les cibles d'agribashing, cette campagne de critique et de dénigrement plus ou moins violente. Cécile Jarose a accepté de me faire monter sur son tracteur au moment de la préparation du champ, avant le semis du blé, juste en face des habitations.
Donc là, on va monter dans le tracteur et on va justement utiliser le cultivateur pour préparer le lit de semences.
Vous, vous utilisez des pesticides ?
Oui, donc on utilise des produits phytosanitaires. Donc, pour rappel, les produits phytosanitaires, ce sont des médicaments qu'on apporte pour protéger les plantes. On en utilise, on en applique dans les champs uniquement quand c'est nécessaire. On est soumis à des réglementations. Pour donner un ordre d'idée, quand on va appliquer ces produits phytosanitaires, ce sont des produits extrêmement dilués. Un traitement phytosanitaire, aujourd'hui, c'est 99% d'eau. Il y a certaines maladies qu'on ne peut pas forcément gérer en agriculture biologique. On prend un risque. On peut avoir des mycotoxines, des champignons qui sont extrêmement dangereux pour la santé humaine. Et moi, je ne prends pas le risque de produire des produits qui sont contaminés par ces mycotoxines. C'est mon choix.
On vous accuse, vous, les agriculteurs qui travaillent en conventionnel, de polluer la planète.
Alors oui, on subit en ce moment un fort agribashing. Donc pour rappel, l'agribashing, c'est quand même une critique assez violente des pratiques agricoles. Donc ça, on est victime de plus en plus. Moi, la première, avant même de m'installer, j'ai été prise à partie par des personnes que je ne connaissais pas lors d'un dîner d'amis, de manière extrêmement violente, où on m'a accusée d'être meurtrière, pollueuse, et j'en passe.
Meurtrière, on vous a dit ?
Oui. On m'a dit que je tuais des gens, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, c'est juste une non-connaissance de mon métier, de notre profession. Et c'est dommage, malheureusement, on en est victime. Comme un jeune apprenti qui travaillait en Seine-et-Marne était en train de semer. Et en fait, malheureusement, il a subi des violences physiques. Puis il a pris des coups parce que la personne croyait qu'il était en train d'appliquer des produits phytosanitaires. Donc déjà, il y a une méconnaissance du matériel, de la pratique agricole. Et en plus de ça, il y a une violence physique gratuite.
Là, je me rapproche des maisons, donc je ralentis, je lève mon outil. De la manœuvre.
Là, on est proche des habitations, là, on les voit juste devant nous, là, les pavillons. Là. Il y a plusieurs communes dont les maires ont voulu interdire l'épandage de pesticides proche des habitations. C'est arrivé à Langouette, à Perret en Yvelines. Pour ces maires, c'est un principe de précaution.
Le principe de précaution, il est nécessaire. Mais aujourd'hui, ce principe de précaution, il est déjà appliqué. Si on nous donne l'autorisation d'utiliser ces produits, il faut savoir que ces produits ont déjà été vérifiés par une multitude de tests en laboratoire, en champ, avant d'arriver entre les mains d'agriculteurs.
On descend du tracteur ?
Oui, on descend du tracteur maintenant. Donc là, c'est mon père qui est chef de l'exploitation. et qui m'enseigne les métiers de l'agriculture.
Vous avez toujours fait ce métier ?
Oui, depuis l'âge de 14 ans, oui.
Et vous avez quel âge aujourd'hui ?
60 ans bientôt. Donc moi j'ai ma fille qui reprend, donc je suis très très content, mais nuancé un peu d'angoisse parce que je me dis je sais pas comment les jeunes vont pouvoir affronter tout un contexte économique, politique, géopolitique. Et en plus on en remet une couche avec l'agribashing, donc là ça fait beaucoup quoi, je trouve que là ça fait beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'arrive à 60 ans, mettez-vous à ma place. Est-ce que vraiment vous pensez que je vais laisser à mes filles ou à mes petits-enfants une terre abîmée, polluée ? On n'est pas du tout là-dedans. J'ai à cœur de laisser à mes enfants ou à mes petits-enfants quelque chose de viable et de propre, voilà.
Enfin, moi, je suis fière de produire ce que je fais en conventionnel parce que je sais que c'est des produits qui sont contrôlés, certifiés et qui sont basés sur la science et la recherche agronomique française. J'ai aucun problème, je suis droite dans mes bottes, je sais ce que je produis et je suis fière de mes produits.
Mathieu, sachez enfin que cette jeune agricultrice a le projet de produire des pâtes alimentaires issues de sa production de blé. Et si vous souhaitez voir les photos de Cécile Jarose et de son tracteur, rendez-vous sur la page Facebook de l'Attaque.
Oui, et justement, vendredi, ce sera une nouvelle journée européenne d'action des agriculteurs, toujours contre l'agri-bashing. Demain, Antoine ?
Demain, je vous propose de monter avec un chauffeur routier ceux qu'on accuse de polluer la planète avec leurs gros pots d'échappement.
À demain !
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Johan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue bonjour. À vous. C'est donc vous qui habitez à Montréal, en France, Montréal du Gers.
Exactement.
Et bien voilà, vous êtes viticulteur, agriculteur.
Allô,
oui, on vous entend bien. J'espère que c'est le cas également de votre côté. Et avec deux amis, donc vous avez planté 14 hectares de coton. C'est une plantation dont vous dites qu'elle est unique en France. Comment est né donc ce projet? Et comment est-ce que vous êtes passé du raisin au coton?
Donc nous, on est donc viticulteur à l'origine sur notre exploitation donc de Montréal du Gers.
Allô, Johan. Allô.
Sur notre exploitation, la culture du raisin, le jus de raisin, faire le vin, vendre le vin en bouteille, tout ça, nous, on adore. Et on cherchait à faire exactement la même chose sur nos terres céréalières. Et donc, chacun de notre côté, donc avec Médéric et Samuel, mes associés, nous nous sommes dit, il faut qu'on trouve une solution pour nos terres céréalières pour pouvoir faire la même chose sur notre exploitation. Donc, chacun de notre côté, nous avons réfléchi. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas du coton? Parce qu'au final, on nourrit déjà les gens et on pourrait peut-être éventuellement les habiller. Et là...
Allô, Johan. Décidément, on a des petits problèmes sur la ligne. Ça n'arrête pas de couper visiblement. On vous entend. Allez-y.
Vous m'entendez?
On vous entend, oui.
D'accord. Du coup, je disais le coton. Donc, tout le monde nous disait que le coton ne pousse pas en France. Et nous, on voulait prouver qu'il était possible de faire pousser du coton de façon raisonnable donc, sur notre pays. Et donc, on a implanté 6 graines dans notre jardin. De ces 6 graines, on a réussi à faire pousser du coton. Donc, Eureka, on a réussi, bravo.
Bravo.
Et
oui.
Là, on s'est dit qu'il fallait passer à l'étape supérieure. Donc, on a semé en 2017 2 hectares. De ces 2 hectares, on a fait quelques erreurs, on a eu quelques incidents, donc on a perdu 1 hectare, mais de ces 1 hectare, on a réussi à ramasser 100 kilos de fibres. Et là, on a dit, ces 100 kilos, il faut qu'on les transforme impérativement en France. Et donc là, on est parti à la recherche des savoir-faire français capables de transformer le cotonnier. Nous avons trouvé une filature dans les Vosges, nous avons trouvé une confection, une teinture, une broderie et un tricotage sur 3. Et donc, on a réussi à fabriquer le premier polo 100% français, matière première incluse.
Le premier polo du Gers.
Alors, j'allais demander, Johan, il faut combien d'hectares? Enfin, 14 hectares, ça permet de faire combien de polos, par exemple? C'est beaucoup alors, ou pas? Je ne me rends pas compte.
Alors, aujourd'hui, sur 14 hectares, on vient de terminer la récolte il y a 15 jours. Mm-hmm. Donc, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons ramassé 2 tonnes de fibres. On est très, très, très content de notre récolte 2019. Et ça fait environ 6000 polos en production.
Ah, c'est quand même pas mal. Bravo. Et Johan, est-ce qu'il faut une terre particulière pour cultiver du coton? Et quelles sont finalement les contraintes? Parce que le Gers, effectivement, et comme partout en France, on n'a pas l'habitude de voir ça. Vous aviez quand même des embûches sur votre route au départ ou pas?
Alors, on a rencontré quelques problèmes, effectivement. Déjà, il fallait trouver la bonne variété, parce que le coton, c'est comme le raisin ou comme beaucoup de plantes, il y a beaucoup de variétés. Des variétés qui sont adaptées à des climats plus chauds, des variétés adaptées à des climats plus froids. Donc, nous, il fallait qu'on teste plusieurs variétés pour trouver la bonne. Ça y est, nous avons réussi à trouver la bonne variété aujourd'hui. Après, on a des contraintes techniques puisque on connaissait pas la culture du coton. Il a fallu qu'on apprenne tout de A à Z, donc par le biais d'Internet principalement et par le biais de nos expériences aussi. Et ensuite, il a fallu adapter le matériel que nous possédions déjà pour pouvoir implanter le coton sur nos terres gersoises.
Johan, comment ça marche le coton? Faut beaucoup d'eau. Enfin, c'est la culture, c'est compliqué, ou le Gers s'y prête bien?
Alors le c'est une fausse idée qu'on a sur le coton. En fait, le coton ne consomme pas plus d'eau qu'une plante classique. C'est juste qu'aujourd'hui, on fait pousser du coton dans des zones arides, dans tous les coins du monde, dans des zones très sèches. Et comme toute plante, en fait, elle a besoin d'eau pour pouvoir pousser. Ça, c'est du maïs qu'on y mettrait, ça serait la même chose. Ce serait du blé, ça serait la même chose. Nous, aujourd'hui, on a quand même l'avantage dans le sud-ouest, donc dans le Gers, sur notre exploitation, d'avoir des sols en argilo-calcaire qui conservent parfaitement l'humidité des sols, plus une pluviométrie qui provient de l'océan Atlantique. Donc on n'a absolument jamais eu besoin d'irriguer notre coton.
Et alors, du côté des pesticides, puisqu'on en parlait il y a un instant avec Antoine, comment ça se passe au niveau du coton pour vous?
Alors nous, aujourd'hui, on est en agriculture raisonnée, avec pour objectif de passer sous le label HVE, haute valeur environnementale.
Allô Johan, décidément on n'a pas de chance.
Dans le coton.
Voilà, on vous retrouve, allez-y.
Ah, pardon. Donc je vous disais, on n'a pas eu besoin d'intervenir, nous, aujourd'hui, sur de l'insecticide et du fongicide, puisqu'on accepte de perdre un petit peu de notre coton mangé par des insectes. Mm-hmm. Ça, c'est un choix que nous avons fait. Après, aujourd'hui, effectivement, donc on reste en agriculture raisonnée, on va passer en HVE. On veut pas passer pour l'instant en agriculture biologique, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà cette contrainte comme ça et on veut pas s'en mettre d'autres sur le dos. Mmh. Chaque chose en son temps. Mais voilà, c'est quand même une plante qui est très 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 robuste, et on va mettre en place donc l'année prochaine des techniques de biocontrôle. Donc ce sont des techniques qui permettent de lutter contre les insectes. On cible les insectes qui nous dérangent.
Oui.
Sans les éliminer, sans les tuer, mais par contre, on les fait se déplacer. Ça s'appelle de la confusion sexuelle, et on, grâce à ça, on déplace les insectes.
La confusion sexuelle. Voilà. Très bien.
Bon, voilà. Et l'agriculture biologique, une contrainte, mais c'est quand même l'avenir. Faut pas l'oublier, je pense quand même, Johan.
En tout cas, bravo à vous pour cette plantation de coton et ces 6000 premiers polos du Gers quand même. Et merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience, Johan. À très bientôt. Si comme
merci
Johan,
à vous, à très bientôt.
Vous souhaitez également nous parler d'une initiative dont vous êtes à l'origine, eh bien vous pouvez nous retrouver bien sûr sur le site de La Terre au Carré. On vous rappellera très prochainement. Dans un instant, l'invité découverte est le comédien, auteur et réalisateur Bastien Huguetto pour la série L'Effondrement. Attention, premier épisode ce soir sur Canal+.
Shouts from the sky.
présente Let Me Be. C'était Cassius sur France Inter.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Bastien Guetto.
Bonjour, merci pour l'invitation.
On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes comédien, auteur, réalisateur. Vous faites partie des Parasites. C'est un collectif d'auteurs-réalisateurs, justement.
Exactement.
Avec Jérémy Bernard et Guillaume Desjardins.
Ouais.
Qui produit, qui distribue des courts-métrages, mais c'est aussi une chaîne YouTube qui totalise des millions de vues.
Non, des millions de vues.
Parce
oui,
que milliers, non,
des
ça
millions
fait,
d'abonnés.
Ça fait pas
c'est
du
trop
tout.
Petit. Ouais.
Vous avez fondé ce collectif après avoir participé ensemble à une école de cinéma, c'est ça? C'est
exactement. On s'est rencontrés à une école de cinéma qui s'appelle L'Écart. Guillaume et Jérémy étaient en réalisation, moi j'étais en section de comédien. Mm-hmm. Et on a commencé à faire des films ensemble pour des concours de jeunes cinéastes il y a 6-7 ans maintenant.
Ouais. Il y avait quoi, l'idée de faire quelque chose d'engagé, d'un peu politique dans votre travail?
C'est venu avec le temps, c'était en lien avec nos engagements personnels à côté, parce que ça fait longtemps qu'on est sensibilisé à toutes les questions, bien sûr, sociétales, environnementales. Et c'est en grandissant, en fait, qu'on a commencé à assumer l'envie de parler de ça, surtout une fois qu'on a su fédérer une communauté sur Internet et donc qu'on a eu une audience. C'est là qu'on a pris conscience de la possibilité que c'était, de la chance que c'était, ouais, de pouvoir aborder ces sujets-là.
C'est quoi votre public, d'ailleurs, sur Internet, hein?
C'est du 18-24 ans, ouais, majoritairement sur
donc
YouTube.
Donc, public quand même très très jeune, ouais, qui aujourd'hui est ultra concerné quand même par ces questions-là.
Absolument, bah, c'est l'avenir, quoi, c'est nous.
Et on le voit dans les marches, par exemple, ouais, pour le climat, entre autres. Donc, c'est un travail que vous avez mené avec ces courts-métrages qui arrivent sur Canal+ ce soir, c'est ça? Sur l'effondrement, en tout cas.
Hein, sur l'effondrement, bien sûr. L'effondrement, c'est un sujet pour en parler qui nous préoccupe depuis des années, même avant que le mot collapsologie et effondrement n'arrive à l'oreille du grand public, dont nous, et c'est pour ça que la série s'appelle comme ça. Mm-hmm. Mais oui, c'est un sujet qui nous inquiète et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire la série avant toute chose, quoi, pour essayer de toucher le plus de monde possible et notamment des gens qui sont peut-être encore sceptiques, comme on en voit tant d'arriver au travers des récits et de la fiction à les faire se rendre compte de choses, quoi.
Mm-hmm. Et justement, le moyen de les toucher, c'est de leur faire peur plutôt que de leur montrer des choses plus positives.
On assume entièrement ouais, ce côté-là. Oui, l'idée,
c'est comme ça que ça marche.
De mettre une claque. Il n'y a pas de formule magique, je dirais, pour faire marcher et éveiller les gens à la conscience écologique. Toutes les méthodes sont bonnes. Il y a déjà plein de gens qui sont médiatisés, qui ont un vrai discours pédagogique, je pense à des Aurélien Barreau, bien sûr, Pablo Servigne, Philippe Biwix, qui ont déjà cet aspect scientifique-là très intéressant et qui est important et qui, pour nous, accompagne notre démarche. Mais nous, l'idée, c'est plus de projeter justement le spectateur qui pourrait être encore un peu sceptique dans un effondrement. On peut revenir les raisons de l'effondrement de la série après, si vous voulez. Ouais. Mais dans un effondrement, pour qu'il se rende compte que oui, en fait, c'est crédible, ça peut arriver, pour qu'il s'identifie au personnage et juste qu'il n'ait pas envie que ça arrive. Voilà.
Alors justement, l'effondrement, c'est 8 épisodes qui vont, oui, être diffusés donc à partir de ce soir, 13 à 20 minutes, qui ont tous d'ailleurs la particularité d'être filmés quasiment tous, hein, en plan séquence.
Oui.
Pourquoi vous avez souhaité ça d'ailleurs d'un point de vue de la technique?
Alors déjà, premièrement parce que ça nous éclatait, on adore, on a fait cette série bien sûr pour parler de l'effondrement, mais aussi parce qu'on adore le cinéma, on adore raconter des histoires, c'est ça qu'on sait faire et qu'on a envie de faire. Mm-hmm. Donc on avait envie de faire une série et les plans séquences, c'est quelque chose qui nous fascine. Il y a deux grosses inspirations qu'on a, c'est Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón et Victoria, j'ai perdu le nom du Real ou de la Real, mais c'est un film allemand qui est pareil, qui est un plan séquence de 2h15, ouais, filmé de nuit dans les rues de Berlin, qui est vraiment super. On avait envie de faire du plan séquence et en plus de ça, de la simple prouesse technique qui est exaltante et fédératrice pour toute l'équipe, que ce soit devant ou derrière la caméra, il y avait l'envie aussi de piéger le spectateur quelque, ouais, part pour qu'il soit enfermé avec la caméra et les personnages dans une temporalité qui vit en temps réel de A à Z. Ouais.
Et ça crée une tension pour le spectateur, ce qui est absolument réussi dans ce contexte pré-apocalyptique, hein, on pourrait le dire, parce que les choses vont s'effondrer en tout cas. Ouais. Y a des problèmes de ravitaillement, il n'y a plus d'essence, il n'y a quasiment plus rien dans les supermarchés. Et justement, le premier épisode, c'est Supermarché. On pourra le voir ce soir. En voici un extrait.
Mon pote Thomas, qui travaille à Rungis, il dit que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas été ravitaillés. Dans moins de 48 heures, il n'y aura plus rien à bouffer en ville. Je sais pas, ouvre les yeux et tu vois bien que les rayons sont vides là. Ça fait combien de temps que vous avez pas été livré?
Omar est encore une fois demandé en caisse 3.
Bon, écoute, Julia, pardon, mais j'y crois pas en fait. Je peux pas. Faut que j'y aille.
Voilà, et vous avez beaucoup travaillé justement sur la psychologie humaine, Bastien Huguetto, hein, dans ces moments justement de rupture absolue où la société s'effondre. C'est quel choix finalement on doit opérer? Et c'est le cas de ce jeune homme là qui est à la caisse. Sa petite amie vient le rejoindre, ils remplissent le caddie pour s'enfuir avec des aliments. Et lui, c'est la question de rester ou de partir. Et ça revient à plusieurs reprises dans les épisodes. Hein.
Oui, bien sûr, le personnage d'Omar dans ce premier épisode, on a voulu parler du déni en fait de... qui fait quoi notre propre déni à tous les trois d'être conscient de toutes les problématiques qui sont en train d'arriver. Et finalement, on continue de vivre à Paris comme si de rien n'était. Bon, on fait des efforts. Enfin, on est tous les trois végétariens. On se déplace à vélo. On a un mode de vie qui essaie d'être le moins, on va dire, énergivore possible, même ouais. si, bien sûr, ça reste quand même assez limité comme démarche, vu qu'on vit quand même dans un pays occidental privilégié. Mais donc, oui, on a eu envie de parler de ce déni-là au travers... Du personnage d'Omar, mais après on traite quand même plein de choses. Pour parler de manière plus générale de la série, on a voulu un peu faire le contre-pied du cliché du film post-apo à l'américaine, à la Mad Max, avec des gens qui s'entretuent, en démontrant que tout le monde, dans les situations, parce qu'il y a des épisodes, bien sûr, comme vous l'avez dit, dans la station-service, où ça tourne à l'émeute.
Ouais, dans la station-essence, par exemple.
Exactement, mais il n'y a pas de méchant, c'est ce qu'on essaie de montrer. Ouais. Tout le monde a quelque chose à défendre, parce que les gens n'ont pas été préparés avant. Mais on parle aussi, dans plusieurs épisodes, d'entraide. Finalement, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est que de tout temps, ça s'est prouvé scientifiquement, l'humanité a plutôt été enclin à l'entraide qu'au chacun pour soi dans les situations de crise.
Mais vous diriez que c'est une série qu'on regarde pour se détendre ou pas vraiment?
Ah, pas vraiment. Alors là, je peux vous dire que c'est pas le truc à faire. Hein.
Ça dépend
vraiment. Je voudrais t'entendre le dire.
Non. Il faut regarder Coco Voight après.
Coco Voight,
oui. C'est votre autre série sur YouTube.
Coco Voight.
Coco Voight.
C'est ça, Coco Voight. Voilà, comme le covoiturage. Vous êtes en bagnole et là, c'est beaucoup plus drôle.
Oui, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas avec les Parasites, c'est avec Ebim, la même société de production. C'est une émission qui dure sur Comedy Plus. Ça fait 3-4 ans qu'on fait ça. C'est des sketchs en covoiturage, oui. On essaie d'aborder des thèmes comme ça, engagés entre guillemets sur, on va dire, un épisode sur deux, mais de façon beaucoup plus légère.
Ouais. Et Bastien Huguetto, est-ce que vous parlez de votre conscience de cet enjeu-là? Est-ce que du coup, vous l'avez également appliqué pour le tournage de la série? Est-ce que vous avez fait un tournage entre guillemets
éco-responsable?
Et voilà, éco-responsable.
Très bien, c'est très bien de mettre des guillemets parce qu'on est un peu mal à l'aise avec ça tous les trois. Parce que, enfin, on trouve ça génial comme démarche. Mmh. On est ravis d'avoir pu le faire. À la base, pour revenir au début, c'est avec Guillaume et Jérémy, on voulait que ce soit un tournage végétarien et la production, du coup, André Avistoli, Ambroise Carminati de Ebim ont eu la super idée de pousser le curseur plus haut et d'aller vers un tournage qui soit éco-responsable, aussi bien au niveau de la parité des postes entre les hommes, les femmes. Mais bien sûr, il y a des économies, il n'y avait pas de gobelets en plastique, pas de plastique à usage unique. Enfin, c'est tout bête, mais du coup, tout le monde a sa gourde, il y a des éco-cups, on fait du transport collectif pour aller sur le tournage. Même les gros comédiens, Thibaut de Montalembert, Audrey Fleurot, tout le monde sait.
C'est quoi un gros comédien?
C'est prêté au jeu.
Un comédien au-dessus de 90 kilos.
Non. Ouais. Mais tout le monde s'est prêté au jeu. On est ravis d'avoir pu faire ça, même si, bien sûr, je dis on est mal à l'aise, c'est exagéré, on est très content de l'avoir fait et de mettre cette démarche en avant, parce que c'est un peu le reflet de ce qu'on essaie de faire dans nos propres vies à nous, mais on aimerait bien que ce soit juste normal, en fait, qu'il n'y ait pas besoin
de l'afficher quelque part
comme un porte-étendard. Mais on espère que ça va éveiller une conscience et qu'il y a d'autres productions. S'il y a des producteurs qui nous écoutent, je vous invite à faire de même, parce que vous pouvez contacter nos producteurs, mais ils ont même fait des économies grâce à la démarche éco-responsable. Donc,
alors d'ailleurs, parmi les gros acteurs, il y a Thibaut de Montalembert, qui joue dans le troisième épisode donc de l'effondrement. C'est l'aérodrome. Il joue un riche industriel qui a trouvé un moyen de se barrer avant d'un avion.
Il a souscrit une sorte d'assurance.
C'est ça, mais ça ne va pas se passer tout à fait comme il veut. En tout cas, on laissera les gens regarder. Et puis, vous parliez d'entraide tout à l'heure, justement. Vous faites partie de cet épisode sur la maison de retraite, avec tout le dilemme, justement, pour un jeune qui est là pour aider, au service des personnes âgées, de savoir s'il doit rester en cas de crise ou partir avec ses amis. Il n'y a plus rien à manger, on voit la maison de retraite qui est vide. C'est absolument angoissant comme situation, parce qu'on se dit que pour le coup, ça pourrait vraiment se passer comme ça.
Bah, totalement. Enfin,
que ferait le personnel?
Mais bah oui, déjà cet épisode se passe à J+50, donc là on parle de quelqu'un qui est resté s'occuper des gens depuis un bon moment déjà, mais c'est parti juste du fait que moi personnellement j'ai perdu tous mes grands-parents, la plupart sont passés par ce que je considère être des mouroirs en fait, et c'est des endroits où tu te dis oui, enfin si c'est la fin du monde, les gens qui y travaillent, c'est terrible, mais il y a peu de chances qu'il y en ait beaucoup qui restent parce que tout le monde a des familles, d'autres préoccupations, la vie continue. Donc c'est un épisode qui parle de plein de sujets très durs dont on a du mal à parler dans la société, y compris d'euthanasie. C'est vers là que, enfin sans spoiler, mais c'est vers là que...
Absolument.
C'est de ça dont ça parle, mais c'est un épisode très personnel à tous les trois. C'est un sujet où on avait encore envie, une fois, de parler de l'effondrement de façon différente que les films classiques à l'américaine.
Voilà, 8 épisodes hein, pour l'effondrement. Il y en a combien ce soir diffusés sur Canal?
Il y en a 2 diffusés sur Canal+. Au passage, j'aimerais bien remercier Mathieu Marot et Ariel Saraco de la création originale et décalée de Canal, grâce à qui on a fait cette série. Donc,
Donc vous regardez l'effondrement et puis après Coco Voit.
Coco Voit.
Coco Voit sur YouTube. Merci beaucoup en tout cas d'être passé par chez nous, Bastien Huguetto.
Avec plaisir, merci.
Et bien, plein de succès pour votre série et tout ce que vous créez avec vos camarades. À très bientôt. Au revoir.